friction.
Je parle, donc je suis. S'il est un trait distinctif de l'espèce humaine, un caractère qui soit le propre de l'homme, c'est sans doute le langage. Bien d'autres espèces animales possèdent à des degrés divers une organisation sociale, des aptitudes technologiques ou des pratiques culturelles. Mais seul Homo sapiens, l'homme moderne, est doué de la parole. Mais pourquoi, quand et comment la parole est-elle venue à l'homme ? Paléo-anthropologue, biologiste, linguiste, philosophe butent sur cette énigme. On a longtemps pensé que l'émergence du langage articulé était liée à une modification du conduit vocal de la lignée humaine au cours de l'évolution. Des travaux récents tendent pourtant à montrer que cette explication anatomique est insuffisante. Si l'anatomie était seule en cause, le singe serait lui aussi capable de produire un langage articulé. L'origine du langage réside-t-elle alors dans les facultés cognitives supérieures d'Homo sapiens ? Est-elle associée à une vie en société plus élaborée, à la fabrication d'outils sophistiqués ou à des productions culturelles complexes ? Les chercheurs n'ont pas davantage de certitude quant à la date d'apparition du langage. Certains imaginent qu'elle s'est produite voilà 2,5 à 3 millions d'années, lorsque nos ancêtres se sont séparés des Australopithèques quelque part dans la savane africaine. D'autres croient au contraire qu'elle ne remonte qu'à quelques 50 000 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire de la vie. C'est justement grâce à la parole que nous allons pouvoir aborder ces questions aujourd'hui dans Science Friction avec Louis-Jean Boet, chercheur à l'Institut de la Communication Parlée de Grenoble, et Jean-Marie Ombert, directeur à la fois du département des sciences de l'homme et de la société au CNRS et du laboratoire dynamique du langage à Lyon. Jean-Marie Ombert, on a finalement peu de certitudes concernant l'origine du langage. Il est vrai que l'on ne dispose pas de beaucoup d'indices, quelques ossements fossiles et puis c'est à peu près tout.
Oui, on a l'habitude de dire le langage ne fossilise pas. Si on réfléchit à ce qui se passe lorsque les Homo sapiens échangent des messages linguistiques, il y a une parole qui est produite, donc un système de production de la parole, et il y a un système de perception de la parole. Un système de production, vous avez essentiellement le larynx, les cordes vocales, de l'air qui font vibrer ces cordes vocales, une langue qui permet, par ses déplacements, de produire des sons différents. L'ouverture de la fosse nasale joue un rôle également dans la distinction de ces sons. La position des lèvres joue un rôle dans ces sons. Donc, tout ce mécanisme forme la production des sons. De l'autre côté, pour recevoir ce message, vous avez un système de perception des sons, essentiellement l'oreille, et le décodage entre l'oreille et le système nerveux central. Et aussi bien du côté production que du côté perception, vous avez un certain nombre de commandes motrices qui permettent d'émettre les sons et de décodage du signal acoustique qui permettent de reconnaître ces sons. Et dans tout cela, lorsque un sapiens meurt, très rapidement, peu de traces fossiles vont subsister. Alors, il y a pour le système central, c'est-à-dire pour le cerveau, des traces assez indirectes, qui sont la forme de la calotte crânienne. Et par la forme de la calotte crânienne, on peut inférer un certain nombre d'éléments sur la forme du cerveau, et en particulier sur les zones qui, pendant très longtemps, ont été considérées comme des zones spécifiques du langage, que l'on appelle les zones de Broca, les zones de Wernicke. Et depuis, disons, une 30-40 ans, il y a des études faites sur ces calottes crâniennes fossiles pour essayer de voir si ces zones dites du langage étaient ou non développées à certaines périodes. Pour les parties plus périphériques de production et de perception de la parole, on a beaucoup parlé du larynx et plus spécifiquement d'un petit os qui s'appelle l'os hyoïde. Et la forme de cet os hyoïde, on en a très peu d'exemplaires, mais la forme de cet os hyoïde peut nous renseigner sur les capacités de production de parole. Et donc, on est extrêmement limité en ce qui concerne les fossiles. En gros, calotte crânienne pour une inférence très indirecte sur les capacités du cerveau et l'os hyoïde pour les capacités de production de la parole.
Jean Boet, alors une thèse couramment admise, c'est cette modification du canal vocal et précisément donc de l'abaissement de son larynx qui serait à l'origine du langage articulé. Alors vous avez fait des recherches précises sur ce point-là.
Voilà, puisqu'on parle de ce type de recherche, je crois qu'il est important de noter que les débats sur l'origine de l'homme et du langage ont tout intérêt à être menés par des équipes pluridisciplinaires dans des projets qui sont des projets nationaux ou mieux internationaux. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, pour répondre à ce type de questions, il faut posséder des connaissances dans des domaines aussi différents que l'anthropologie physique. On a vu donc que le cerveau et le conduit vocal étaient dans l'architecture osseuse de la tête et du crâne. Donc l'anthropologie physique apporte évidemment des informations considérables sur les dispositions de ce conduit vocal. Ensuite, il faut connaître évidemment l'anatomie et la physiologie des parties molles dont on vient de parler, du larynx jusqu'aux lèvres, en passant par la langue et le voile du palais. Il faut avoir des connaissances de neurophysiologie, puisqu'il faut contrôler ces organes de l'articulation pour produire des sons. Il faut être capable de faire de la modélisation du conduit vocal, et ça, ça fait appel à des connaissances d'acoustique, d'électronique, d'informatique et de robotique pour piloter ce conduit vocal. Il faut évidemment être spécialiste aussi de linguistique et de phonétique, puisque ces sons sont faits pour produire du sens avec un code linguistique dans différentes langues. Il faut aussi, on le verra, avoir des informations sur l'acquisition du langage de l'enfant, et ça, ce sont les psychologues qui s'en occupent. Il faut avoir des connaissances de neurophysiologie, puisqu'on vient de parler du cerveau, et évidemment, le cerveau, c'est le pilote du conduit vocal, donc tout est cognitif, de la commande du conduit vocal jusqu'à l'association son-sens. Et puis, puisqu'on va comparer l'homme à ses proches voisins aux chimpanzés, il faut avoir des informations de la part des primatologues et des chimpanzés. Alors, tout ça, évidemment, c'est difficile de les réunir dans les capacités d'un seul individu. Donc, ça va se réunir dans des capacités de laboratoire, ça va se réunir dans des capacités de projets internationaux. Les débats sur l'origine de l'homme et sur l'origine du cavalier sont couplés. L'homme a le seul la capacité de parler. On va se poser des questions par rapport aux espèces voisines. Alors, le chimpanzé, lui, ne parle pas et on n'a jamais réussi à le faire parler, sauf à prononcer deux mots, d'ailleurs avec des consonnes qui sont les consonnes les plus fréquentes dans les langues du monde, le que, le peu et le te. Mais il y a une espèce qui est voisine, qui a été très longtemps discutée, c'est Néandertal. Alors, en 1856, on a une surprise de taille qui va se poser pour le classement de cette espèce. On découvre donc, près de Düsseldorf, dans une carrière de calcaire, c'est un instituteur qui s'appelle Karl Fulroth, il va découvrir une calotte crânienne très allongée, avec des arcades sourcilières très proéminentes, et il va y avoir tout de suite une controverse qui va s'établir, comment va-t-on classer cet individu? Est-ce que c'est une espèce dégénérée ou est-ce qu'au contraire c'est une branche parallèle qui se serait éteinte? Alors on sait maintenant que cet homme de Néandertal, il a vécu entre 700 000 ans, il a disparu à 35 000 ans, donc il a côtoyé Cro-Magnon. C'est quelqu'un quand même qui avait un crâne plus volumineux que le nôtre, il avait au moins 100 cm cubes de plus, et quand on associe quand même intelligence et volume du crâne, ça pose un problème, bien qu'il ait une apparence qui le rapprochait à l'époque plus du singe. C'est quelqu'un qui a enterré ses morts, puisque lorsqu'on va retrouver des gisements donc de Néandertaliens de Gibraltar jusqu'à l'Ouzbékistan et essentiellement donc au centre de la France, en Dordogne et en Corrèze, donc il y a 75 sites à peu près autour des Néandertaliens, eh bien on va trouver un crâne parfaitement entier, et ce crâne-là, c'est l'homme de la chapelle au sein qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il va être l'objet d'un débat. Parce que en dehors de son classement dans les espèces humaines, donc enterrer ses morts, c'est quand même quelque chose qui est une activité intellectuelle qui nécessite peut-être la parole, mais en tout cas, en dehors de son classement par rapport à Homo sapiens sapiens, on peut se demander, est-ce que Néandertal parlait? Et en 1971, il y a un chercheur américain qui s'appelle Philip Lieberman, avec son collègue Edmund Krelin. Alors Lieberman, c'est quelqu'un qui est spécialiste des sciences de la parole, aux États-Unis c'est quelque chose de très courant, donc multidisciplinaire. Son collègue Edmund Krelin, c'est quelqu'un qui est spécialiste d'anatomie et de physiologie, eh bien ces deux chercheurs vont émettre une hypothèse très intéressante, hypothèse qui va se propager avec une grande vitesse. Pourquoi? Lieberman fait un raisonnement qui est le suivant. Le singe a un petit pharynx. On vient de parler des parties du conduit vocal, donc il y a une partie verticale du conduit vocal long des vertèbres cervicales qui s'appelle le pharynx, puis une partie plus en avant qui s'appelle la partie buccale. Eh bien, le singe a un petit pharynx. Il ne parle pas, on sait qu'il ne parle pas. Le bébé à la naissance a aussi un petit pharynx. Et à la naissance, il ne parle pas. Par contre, Homo sapiens sapiens, lui, a un grand pharynx, il parle. D'où la démonstration de Lieberman qui consiste à dire, eh bien, vous voyez, pour que l'espèce humaine ait pu parler, il a fallu qu'au cours des temps, le pharynx prenne un certain volume, c'est-à-dire qu'il se déplace du volume du singe jusqu'au volume de l'homme pour qu'il puisse parler. Et le bébé, au cours de son ontogénèse, de sa croissance, eh bien lui aussi, il a fallu attendre un certain temps pour qu'il puisse parler, il faut attendre un certain temps que son pharynx se développe. Et pour faire ceci, il va prendre donc le crâne de l'homme de la chapelle au sein et il va faire dessus des... Il va induire des moulages du conduit vocal, il va faire des simulations informatiques. Et là, c'est là où, dans le cadre d'un projet international associant donc les nombreuses disciplines dont j'ai parlé, nous avons fait la démonstration qu'il y avait deux fautes. Première, disons, faute de parcours, mais à l'époque, c'était possible de la faire. Il a choisi un moulage de la tête de l'homme de la chapelle au sein qui avait été reconstruit. Cette tête-là a été reconstruite en 1908 par Marcelin Boule, qui était le responsable, le patron de la paléontologie anthropophysique incontestée et incontestable. Et à l'époque, Marcelin Boule pensait que cet homme de Néandertal était très proche du singe. Et comme la base du crâne avait été un petit peu abîmée, elle était même bien abîmée, il l'avait reconstruite comme celle d'un singe. Et évidemment, comme on reconstruit la position du pharynx et la position du larynx en fonction des bases du crâne, eh bien, Liebermann avait évidemment infléchi sa démonstration avec un tout petit pharynx. Deuxièmement, à l'époque, il avait utilisé des simulations informatiques, et ces simulations informatiques n'étaient pas si faciles que ça à faire, il n'avait pas voulu faire beaucoup d'essais. Il avait montré qu'avec un conduit vocal, avec un petit pharynx, comme celui des singes, comme celui qui supposait de Néandertal et comme celui du bébé, eh bien, on ne pouvait pas produire les trois voyelles qu'on trouve dans toutes les langues du monde, et qui permettent effectivement de faire des mots différents, le I, le A et le O. Et nous avons montré...
Vous avez refait cette simulation sur d'autres bases. En
fait. Tout à fait. Alors, on s'est associé au niveau du projet avec Jean-Louis M., qui est professeur d'anthropologie physique au Musée de l'Homme à Paris. Et Jean-Louis M. est un spécialiste de Néandertal. Et justement, en 1986, il avait reconstruit la tête de l'homme de la chapelle au sein en montrant que la base du crâne de cet homme était exactement identique à une base du crâne humaine. Et d'autre part, à Kebara, en Israël, on a trouvé un ossuïde. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont été retrouvés, il y en a un seul. Et à Kebara, donc, un néandertalien a laissé son ossuïde, on l'a retrouvé, et cet ossuïde était pratiquement identique à un ossuïde humain. Donc, au niveau anatomique, on savait que Néandertal avait une base du crâne identique et un ossuïde identique. D'autre part, on a refait les simulations donc du conduit vocal à partir des simulations qu'avait faites Liebermann, on a trouvé que ce conduit vocal pouvait très très bien générer les voyelles IAU.
Donc vous avez démontré que l'homme de Néandertal pouvait parler.
Tout à fait. On a montré, si vous voulez, que pour que la parole puisse arriver au niveau de l'espèce humaine, il n'a pas fallu que le larynx descende. Le larynx est descendu parce que vraisemblablement c'est la station debout peut-être qui a provoqué l'abaissement du larynx, mais ça n'était pas la cause fondamentale pour que la parole puisse apparaître.
En fait, ça ne veut pas dire que l'homme de Néandertal parlait.
Ah, pas du tout. Nous avons simplement démontré que la démonstration qui était faite comme quoi il ne pouvait pas parler était fausse. Donc les choses sont remises à zéro. Néandertal pouvait parler, le bébé à la naissance peut parler, et s'il ne parle pas, c'est parce qu'effectivement, il n'a pas le contrôle de sa langue et de ses lèvres.
Jean-Marie Humbert, est-ce que justement cette approche anatomique vous paraît convaincante en matière de démonstration de la possibilité ou non de parler ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Louis-Jean Bourret. Je pense que même si l'abaissement du larynx a pu accompagner et faciliter, je pense que ce n'est pas du tout le verrou. Je pense qu'il faut voir le problème autrement. Je pense que c'est très important, prenons d'autres exemples, c'est très important de faire la distinction entre des capacités de faire quelque chose et le fait que ces choses soient incorporées dans le quotidien. Prenons deux exemples. Prenons l'exemple de l'écriture et l'exemple de l'agriculture. Il est évident que ces deux étapes sont cruciales dans l'évolution de notre espèce. L'agriculture a été inventée sur plusieurs sites il y a environ 10 000 ans, l'écriture il y a environ 5 000 ans. Ces deux étapes qui sont absolument cruciales, qui dans notre quotidien nous paraissent évidentes, malgré ça, notre espèce est évidemment capable de le faire, puisque nous l'avons fait. Alors, si vous regardez l'état actuel des différentes populations, vous avez 10 000 ans plus tard, des populations qui n'utilisent toujours pas l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a pu survivre 10 000 ans sans agriculture, je pense aux quelques populations de chasseurs-cueilleurs. Avec l'écriture, avec les incroyables avantages qu'amène l'écriture dans la circulation de l'information, vous avez la majorité des populations du globe aujourd'hui qui n'utilisent toujours pas l'écriture, bien qu'elle ait été inventée depuis plus de 5 000 ans.
Donc ça veut dire que l'agriculture a pu commencer à apparaître bien avant.
Ce que je veux dire
avant,
par là, c'est que c'est évident que notre espèce a le potentiel pour développer l'agriculture et l'écriture, et j'aimerais transposer cette réflexion sur le langage. Il est tout à fait possible que nous ayons eu le potentiel pour démarrer, entre guillemets, le langage, sans exploiter ce potentiel pendant très très longtemps.
Alors on va rester sur le potentiel une seconde, justement, pour peut-être le démontrer grâce à vos travaux. Qu'est-ce que concrètement ce potentiel apporte. C'est-à-dire qu'on peut, avec vos outils de simulation, montrer ce que donne un langage, une prononciation de son par un être humain à différents âges.
Tout à fait. En fait, c'est une démonstration cruciale, puisque le bébé, comme l'avait remarqué d'ailleurs Lieberman, le bébé va, au cours de sa croissance, parcourir ce qui s'est passé au niveau de l'évolution, puisque le singe a, c'est incontestable, un larynx en position haute, et que l'homme a un larynx en position basse, donc un grand pharynx.
Donc le bébé part d'un
larynx très bas, comme le petit singe, parce qu'il a une tête qui ressemble à celle d'un petit singe, il a le même conduit vocal. Donc, si nous prenons un conduit vocal d'adulte, et par simulation informatique, c'est-à-dire à partir d'un modèle articulatoire qui a été élaboré à partir de mesures anatomiques et physiologiques de croissance, eh bien, on peut faire rajeunir ce conduit vocal, tout en prononçant la même voyelle, et montrer qu'effectivement, il est tout à fait possible de continuer à produire la même voyelle, mais avec des stratégies articulatoires différentes. Parce que, en fait, pourquoi un conduit vocal avec un petit pharynx permet de faire les voyelles aussi bien qu'avec un conduit vocal avec un grand pharynx? Eh bien, c'est simple. Vous avez à votre disposition de très nombreux paramètres. Vous avez les lèvres, vous avez la position de la mâchoire, vous avez la position de la pointe de la langue, vous avez la position du dos de la langue, vous avez la position du corps de la langue, et vous avez la position du larynx. Et en jouant sur ces multiples paramètres, vous pouvez obtenir le même résultat avec des dispositions différentes.
Donc on corrige, en fait.
On corrige, on compense. Alors on va écouter un conduit vocal simulé sur ordinateur dans notre laboratoire à Grenoble, à l'ICP, et qui va produire des voyelles A de 21 ans jusqu'à la naissance.
On commence par 21 ans.
Ah. 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 Ah.
Donc là, on est passé de 21 ans à la naissance.
Voilà, on est passé de 21 ans à 18 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 8 ans, à 5 ans, à 2 à la naissance. On voit effectivement le petit bébé.
Ce que vous voulez démontrer, c'est que le petit bébé pourrait prononcer le même son.
Tout à fait.
Simplement avec.
Avec une stratégie articulatoire un petit peu différente. D'ailleurs, le bébé qui commence à produire des voyelles vers 2 ans à peu près n'a pas tout à fait la même stratégie articulatoire qu'un adulte. C'est-à-dire que comme son pharynx est plus petit, il va être obligé de mettre sa langue un petit peu plus en avant et d'avoir des positions de la langue un petit peu différentes.
Alors Jean-Marie Humbert, pourquoi le bébé ne prononce-t-il pas cette voyelle? Et de la même façon, pourquoi nos ancêtres ne les prononçaient-ils pas peut-être également?
Je crois qu'il faut faire très très attention de ne pas confondre la production de sons, que nous on peut appeler aujourd'hui voyelles par analogie avec des sons qui sont utilisés dans les langues du monde aujourd'hui, et le langage. Il y a un monde entre la capacité à faire un bruit qui ressemble à une voyelle et la capacité à gérer un échange d'informations avec un langage sophistiqué tel que nous sommes en train de le faire maintenant. N'oubliez pas que avant de passer à un message qui peut être produit et compris, il faut passer au niveau des syllabes, ensuite au niveau des mots, ensuite au niveau de l'arrangement des mots dans une phrase qu'on appelle la syntaxe, et être capable de décoder tout ça.
C'est le parcours que réalise un bébé en grandissant.
Oui, mais ça a dû se passer très très différemment dans l'évolution de l'espèce. N'oubliez pas que le bébé est baigné dans un environnement linguistique où au quotidien, il a de l'information qui lui arrive et il produit, il fait des essais et son entourage lui donne des réactions en fonction des messages qu'il envoie et ce qui lui permet
Le stimule en permanence.
Avec notre espèce, ça s'est probablement passé de manière tout à fait différente, puisqu'il n'y avait pas d'environnement pour, entre guillemets, corriger, améliorer ou faire évoluer le système très rapidement. Moi, je pense que l'évolution a pendant très longtemps été extrêmement lente, hein, et que avant d'arriver à un lexique de quelques centaines de mots, il a fallu plusieurs millions d'années. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, la vitesse d'augmentation a été beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de voir que dans l'évolution du langage chez le bébé, on a aussi des points de rupture de ce type-là, et plusieurs groupes de recherche travaillent en ce moment sur ce parallèle entre ce que l'on appelle chez l'enfant l'explosion lexicale, c'est-à-dire la période où l'enfant commence à acquérir des mots à une vitesse beaucoup plus rapide. Et je pense qu'il y a une parfaite analogie à tracer avec l'évolution du langage où, comme je vous le disais, pendant très longtemps, on a probablement eu quelques signaux acoustiques qui faisaient référence à des événements extrêmement concrets dans l'environnement, ce que j'appelle le « ici et maintenant ».
Est-ce que ça peut ressembler au langage utilisé par les animaux aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est complètement différent?
On a pu avoir, vous savez, il y a maintenant des études extrêmement pointues sur les signaux acoustiques utilisés par différentes espèces, par exemple chez les vervettes, où on voit qu'un certain nombre de signaux acoustiques, un nombre réduit, 4, 5, 6 signaux, sont liés à des situations bien précises, en général des situations de danger, une annonce de prédateur, et les signaux acoustiques sont différents. Si le prédateur est un prédateur aérien, un prédateur terrestre, on peut tout à fait imaginer que le langage de nos ancêtres très très lointains était quelque chose d'assez semblable, et que ce n'est que depuis une période extrêmement récente, par extrêmement récente je veux dire entre 50 et 150 000 ans, où il y a eu ce point d'inflexion avec une augmentation beaucoup beaucoup plus rapide et un degré de sophistication dans le codage de l'information beaucoup plus sophistiqué.
Donc la question, c'est de savoir pourquoi il y a eu cet emballement au fond. C'est un peu ça, l'apparition du langage, c'est à partir de cet emballement, sinon on serait resté un échange très très pauvre. Mm-hmm. Alors pourquoi ça s'est-il produit?
Alors, on pose souvent la question, mais pourquoi les singes ne parlent pas s'ils ont des capacités articulatoires qui ne sont pas très éloignées des nôtres? On peut aussi poser une autre question, c'est est-il avantageux pour une espèce de parler? Dans notre monde de communication, il est évident qu'échanger d'informations donne un statut social. Mais imaginez un contexte beaucoup plus ancien où donner de l'information peut en fait être un élément négatif dans votre survie. Dire où se trouve de la nourriture n'est pas forcément quelque chose de très astucieux lorsque la nourriture est limitée. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les chimpanzés n'ont peut-être pas développé ce type de langage est peut-être que tout simplement, ils n'en avaient pas besoin.
Et ils vivaient quand même dans un contexte proche, j'imagine.
Pas forcément. Vous savez que l'une des théories pour, d'une part, le développement de la bipédie et peut-être ensuite du langage, a été que l'environnement s'est profondément modifié et que les chimpanzés, en gros, sont restés dans un environnement humide avec une nourriture relativement abondante et pas très dangereuse à capter, alors que à l'est de la vallée du Rift, nos ancêtres se sont retrouvés dans un environnement beaucoup plus dégradé.
Justement, c'est l'Inside Story, sans doute, à quoi vous faites référence, qui est plutôt remis en cause aujourd'hui avec la découverte de Toumaï.
Donc c'est plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Ouais.
Mais alors, je crois qu'il faut bien réfléchir à ce problème. Dans quelles conditions est-il avantageux d'échanger de l'information? Tous les contextes ne sont pas nécessairement propices au développement d'un échange d'informations.
Alors, Louis-Jean Bouet, est-ce que vous pensez, vous aussi, que le singe n'a pas parlé, n'a pas commencé à parler parce qu'il n'avait pas de raison de le faire?
Écoutez, en fait, on ne répond pas directement à cette question. En fait, on s'intéresse à des questions qui sont un peu l'histoire naturelle de l'émergence de la parole, en fonction de petits pas. Et on essaie de faire un puzzle pour essayer de comprendre au niveau neurophysiologique quels sont les présupposés, quels sont les acquis dont il faut disposer pour pouvoir parler. Alors en fait, il y a une première constatation, c'est l'apparition du langage chez l'enfant. L'apparition du langage chez l'enfant, au niveau neurophysiologique, on sait qu'il y a une zone qui s'appelle l'aire motrice supplémentaire et que cette zone va se déclencher autour de 6 mois et qu'elle va provoquer un babillage dans des babas ou des dadas, et que à partir de ça, l'enfant, parce qu'il n'apprend pas à mettre des voyelles et des consonnes à la suite, il apprend d'abord à mettre dans des syllabes, justement, ce qui va être des syllabes, c'est babas ou c'est dadas, ou c'est babi, petit à petit, de mettre une association de sons
sens,
et de sens. Voilà. Alors ça, donc, vous voyez, association d'une aire motrice supplémentaire au niveau neurophysiologique, et deuxièmement, donc, oscillation de la mâchoire. Donc ça, on essaye de montrer ça. La deuxième hypothèse qui nous intéresse, donc ça c'est l'hypothèse de Peter McLeanage et de Barbara Davis, donc des psychologues qui sont au Texas, à Austin. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est au niveau neurophysiologique, c'est comment se fait-il qu'on est capable, en regardant et en écoutant quelqu'un parler, parce que le fait de regarder quelqu'un parler, c'est très important, puisqu'on s'aperçoit que les aveugles, par exemple, font des petites fautes de prononciation dans la mesure où ils ne voient pas les lèvres, par exemple. Ils vont confondre un « me » et un « ne », alors que, évidemment, nous, on le confond pas, puisque le « me », c'est la fermeture des lèvres, alors que le « ne », c'est à l'intérieur de la bouche, le son « ne ». Donc, ce qui est important à comprendre, c'est comment, en fait, une espèce peut arriver à reproduire le son qui est émis par quelqu'un, alors qu'on ne voit pas tout à fait bien l'ensemble du conduit vocal. Eh bien, on travaille avec une équipe de Parme, c'est l'équipe de Fogassi et de Risolati, et qui ont mis en évidence ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ce sont des neurones qui réagissent de trois façons différentes, enfin qui réagissent à trois stimulations de la même façon. Lorsque on fait un geste, par exemple bouger le poignet, eh bien ces neurones vont être excités. Lorsqu'on pense à bouger le poignet sans le bouger, ces neurones sont excités. Et lorsqu'on regarde quelqu'un qui bougent le poignet, ces neurones aussi sont excités. C'est pour ça qu'on les appelle les neurones miroirs. Eh bien, lorsque on déplace aussi la langue pour produire un son, on s'est aperçu que ces neurones miroirs existaient. C'est-à-dire que si vous prononcez, si vous approchez votre langue du palais pour prononcer un ton te et deux, vous avez certains neurones qui sont excités. Si vous pensez à cette action, ces neurones aussi sont excités. Et si vous entendez quelqu'un qui produit cette action, ils sont excités. Donc, si vous voulez, cette façon d'aborder les choses nous permet d'associer la neurophysiologie aux capacités qu'il faut pour apprendre des gestes pour produire des sons. Et la troisième chose, qui est intéressante aussi, eh bien, c'est de se dire, est-ce que le langage est apparu d'abord gestuellement, est-ce qu'il est apparu oralement, ou les deux en même temps? Et nous privilégions un petit peu la piste de l'apparition du langage avec des gestes de désignation et avec des sons associés à cette désignation. Et ce qui le conforte un peu, c'est que les enfants, effectivement, quand ils commencent à babiller, ils pointent du doigt, ce que les linguistes appellent la DXIS, ils pointent du doigt quelque chose qu'ils veulent montrer, et déjà de dire « baba » en désignant une banane et le pointer du doigt, c'est de dire « voilà, je veux cette banane » ou « ça c'est une banane » ou « donnez-moi la banane ». Et les singes sont un peu à la limite entre les deux, c'est-à-dire que dans certains cas, ils font des systèmes de pointage en faisant des sons, mais c'est quelque chose qui n'est pas ni véritablement accepté par la communauté, ni véritablement démontré, donc ils sont à la limite entre les deux.
Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les singes ne parleront jamais, par exemple?
Ça, je ne peux pas vous répondre.
On a un exemple tout à fait intéressant qui illustre ce que je disais tout à l'heure sur le potentiel à faire quelque chose et pas nécessairement exploiter dans une espèce donnée. Les travaux dont vient de parler Louis-Jean ont été mis en évidence sur le macaque. Il y a des neurones miroirs chez le macaque. Or, le macaque ne parle pas. Et il a des neurones miroirs depuis très très longtemps. Donc, il y a un potentiel qui pourrait être utilisé, qui n'est pas utilisé.
Alors, quelles sont les recherches qui sont faites dans ce sens-là, d'une analyse plus culturelle qu'anatomique des déclencheurs de l'apparition du langage, actuellement, Jean-Marie Humbert?
Vous parlez des recherches en génétique en général, le lien entre génétique et langage?
Des recherches en cours en matière de... Je sais que vous avez un programme de recherche européen sur l'origine de l'homme et du langage. Sur quel point ces recherches sont-elles axées?
C'est un programme européen qui regroupe une douzaine de pays et une soixantaine de laboratoires. Il y a un grand nombre de projets pluridisciplinaires. L'un de ces projets vient d'être évoqué par Louis-Jean Boué. Et il est évident, comme il a été dit tout à l'heure, que les réponses viendront de plusieurs disciplines à la fois. Hein. Dans ce domaine, je pense qu'il se passe des choses très très intéressantes. Du côté de la génétique et de deux façons totalement différentes. Il se passe des choses intéressantes sur la partie codage génétique du langage. Y a-t-il ou non un gène du langage? C'est une question qui fascine les foules. Je pense qu'on peut répondre aujourd'hui, il n'y a pas un gène du langage. Je pense qu'on a mis en évidence un certain nombre de gènes qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement du langage. Ont-ils une influence exclusivement sur le fonctionnement du langage? Et quelle est la liste de gènes qui auraient une influence là-dessus? Je pense que là, la question est complètement ouverte. Et il y a un autre domaine de la génétique des populations, de la génétique qui nous informe beaucoup sur l'émergence du langage et les premiers mouvements de population des sapiens. On fait toujours comme si il y avait un lien parfait entre l'origine de l'espèce et l'origine du langage. Il n'y a absolument rien d'évident là-dessus. Il est tout à fait possible que notre espèce sapiens ait existé en tant qu'espèce biologique sans que le langage se développe en une seule fois au même moment. Hein. On est évidemment là dans un domaine extrêmement spéculatif, mais il est tout à fait... On peut avoir autant d'arguments pour montrer qu'il y a eu ce que l'on appelle une polygénèse du langage, c'est-à-dire plusieurs sources du langage dans plusieurs sites différents à différentes époques.
Eh bien, je pense que nous reparlerons de ce sujet plusieurs fois encore avant de l'avoir épuisé. En attendant, Science Fiction s'achève et nous remercions Jean-Marie Humbert et Louis-Jean Boué d'avoir participé à cette émission. Gageons que de prochaines découvertes affineront encore notre connaissance de ces origines du langage et nous pourrons peut-être savoir un jour avec certitude pourquoi les singes et d'autres animaux sont privés de la parole. En attendant, vous pouvez approfondir cette question en consultant l'ouvrage de Jean-Louis de Sales intitulé « Aux origines du langage » et publié par Hermès Science en 2000. Vous trouverez les références d'autres ouvrages ainsi qu'une sélection de livres et d'adresses internet sur le thème du langage sur le site de Science Friction confectionné par Christine Gage sur franceculture.com. Cette émission préparée par Pierre Lehir, journaliste au Monde, a été réalisée par Brigitte Alléo avec Cédric Patelus, à la technique. Merci et à la semaine prochaine.
France Culture, il est 18h30, regard sur l'actualité.